Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 5 novembre. Un rillard de 20 ans jugé en comparution immédiate par le tribunal de Lyon, 3 jours après son arrestation lors d'un barbecue sauvage dans le quartier de la Velette. A noter que cette arrestation pourrait être à l'origine de l'incendie des 2 bus. Les équipes de France 3 en région et notamment à Lyon étaient en grève hier. Nous verrons pourquoi dans cette édition. La maire de Manchester en visite à Lyon ce mardi à l'occasion des journées de l'économie. Rebouteille va fusionner avec Alpes Consigne le 1er décembre prochain. Des rues trop ou pas assez éclairées, le débat est toujours présent, et notamment dans le Vieux-Lyon, où les habitants étaient appelés hier à participer à une marche exploratoire. Nous y avons rencontré notamment Thierry Marsic, le directeur de l'éclairage urbain à la ville de Lyon. La ville qui va dévoiler aujourd'hui le programme de la Fête des Lumières.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un rillard de 20 ans a donc été jugé en comparution immédiate par le tribunal de Lyon, 3 jours après son arrestation lors d'un barbecue sauvage dans le quartier de la Velette. Le jeune homme était poursuivi pour violence, requalifié en rébellion et outrage contre un policier. Les faits s'étaient déroulés 1 heure avant que 2 bus des TCL ne soient incendiés dans le même quartier de la Velette. Déjà condamné en 2022 pour violence sur un policier municipal, le jeune rillard a contesté intégralement être l'auteur des infractions. Au final, il a écopé de 4 mois de prison ferme avec maintien en détention. Un sursis de 6 mois a été révoqué. Cette dernière peine est aménageable. Le chauffeur qui convoyait près d'une tonne de cachets d'ecstasy intercepté dans la soirée de jeudi au péage de Romantin-Beaugris sur l'autoroute A7 a été présenté à un juge d'instruction de la Junalco, autrement dit la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Cette saisie de 963 kilos d'ecstasy représente une valeur d'environ 20 millions d'euros. Elle a été réalisée par les douaniers de Lyon. Cette prise est un record sur le territoire national en raison de la dimension internationale de ce trafic de très grande ampleur. La drogue provenant d'un atelier clandestin belge ou néerlandais. Le parquet de Vienne s'est dessaisi au profit de la Junalco qui a ouvert une information judiciaire pour importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, passible de 30 ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d'euros d'amende. Le chauffeur de 38 ans, établi en Espagne, doit être mis en examen. L'enquête a été confiée à la section de recherche de Grenoble et à l'office anti-stup. Les équipes de France 3 en région et notamment à Lyon étaient en grève hier à l'appel des principaux syndicats dès ce mardi avec un petit jour de retard sur le calendrier initial. France 3 région doit s'effacer, remplacée par ICI. Cette marque commune à l'aboutissement d'un premier rapprochement entre le réseau des radios locales publiques France Bleu et France 3 région. Les syndicats dénoncent une perte d'identité. Ils redoutent aussi des conséquences sur l'emploi. Pour la direction, il s'agit d'une nouvelle étape dans la régionalisation de France 3 lancée il y a plus de 4 ans. ICI, marque commune des 2 réseaux de services publics de proximité, est amenée à se développer désormais sur tous les programmes, conclut le communiqué. La maire de Manchester en visite à Lyon ce mardi, Bev Craig, la maire de la 4e ville du Royaume-Uni, participe aux Journées de l'économie 2024 aux côtés d'Emeline Baum, la vice-présidente de la métropole, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les 2 villes. Elles participeront notamment à une table ronde sur le thème de la réindustrialisation urbaine, un enjeu partagé par les 2 métropoles, marquées par un riche passé industriel. Bev Craig partagera également les ambitions de Manchester en matière de reconversion industrielle et d'innovation, axée notamment sur les secteurs de la fintech, des sciences de la vie et des industries créatives. Rebouteille va fusionner avec Alpes Consigne le 1er décembre prochain. L'entreprise spécialisée dans le réemploi de bouteilles en verre, qui s'appellera désormais Revera, ambitionne avec ce rapprochement de devenir un leader régional du secteur. La nouvelle entité compte organiser une levée de fonds au 2e trimestre 2025. Ce tour de table aura pour objectif de réunir entre 4 et 5 millions d'euros. Elle entend atteindre en 2028 entre 6 et 8 millions de bouteilles traitées en se dotant d'une usine de lavage et en investissant également dans un centre de tri automatisé.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
Des rues trop ou pas assez éclairées, un sentiment d'insécurité ou au contraire des riverains gênés par un lampadaire trop puissant. La question de la lumière en ville, la nuit, fait débat. Difficile d'avoir un avis unanime, c'est pourquoi la ville de Lyon a décidé d'organiser des marches exploratoires pour mesurer le ressenti de groupes d'habitants. Le quartier historique du Vieux-Lyon, très fréquenté par les touristes et les fêtards, n'est pas en reste dans ce dilemme cornélien. Nadine Georgel, maire écologiste du 5e arrondissement.
La nature du projet, justement, de ce budget participatif montre que c'est vraiment un sujet qui a mobilisé les habitants, puisque c'est un projet qui a été déposé par les habitants, voté par les habitants, et ce soir, c'est encore les habitants qui font un retour sur la réalisation de ce projet pour pouvoir l'adapter au mieux.
Il faut quoi ? Il faut plus d'éclairage, moins d'éclairage ?
Je pense que ça dépend des endroits. Par exemple, te pose la question de l'équilibre entre l'éclairage privé, puisqu'il y a beaucoup de commerces, il y a des restaurants qui eux-mêmes sont éclairés, et l'éclairage public. Et ça, je pense que selon les rues, il faut pouvoir effectivement trouver le bon équilibre. Ce projet a amené au changement d'équipement, puisque c'est des dizaines de lanternes qui ont été changées au profit de dispositifs LED qui sont aussi beaucoup plus économes et en matière d'énergie, puisque c'est 100 000 kWh, et aussi en matière de finances publiques, puisque c'est une économie de 23 000 euros sur une année.
Une vingtaine de volontaires sont réunis à la mairie annexe du 5e. Ils et elles se sont vu remettre un carnet d'observation à remplir lors de la marche, une marche qui va durer une bonne heure. Alain habite rue Saint-Jean, un quartier qu'il connaît bien puisqu'il y habite depuis une trentaine d'années.
Les experts veulent analyser notre ressenti dans la rue en fonction des différents types d'éclairage et en fonction de ça, ils vont décider ce qu'ils veulent mettre, si ça doit être bien éclairé, moins bien éclairé, avec telle ambiance, etc.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'éclairage urbain dans un secteur comme le Vieux-Lyon ?
D'abord, la sécurité, que les gens puissent rentrer chez eux tranquilles sans avoir... il ne se passe pas grand-chose, mais c'est vrai que quand c'est un peu sombre dans des petites rues, on aime bien être éclairé, surtout les jeunes, les jeunes filles quand elles vont rentrer. Sinon, il ne faut pas non plus que ça soit trop agressif, puisque c'est un quartier un peu tranquille, donc il faut que ça soit un peu, pas tamisé, mais qu'on y voit clair, quand on est vieux, quand on a des lunettes, qu'on ne se casse pas la figure, mais en même temps que ce ne soit pas hyper agressif, voilà, c'est le bon équilibre à trouver.
On parle d'éclairage adaptatif, ça vous séduit ça ?
Pas plus que ça, non. Parce que adaptatif, en fonction de quoi ? J'attends de voir. Si c'est en fonction de la nuit, je pense qu'au contraire, plus il fait nuit, plus il faut être éclairé. Là, je pense que c'est l'inverse qui va se passer. Donc, je ne sais pas, on va voir. Ce n'est pas moi qui ai fait le projet, je suis là pour donner mon avis, on verra bien ce qui sort.
Yves Déal est président du conseil de quartier, quartier ancien. C'est le conseil de quartier qui est à l'origine de renouvellement de l'éclairage urbain dans ce secteur historique.
La balade, elle sert en fait à voir quelles sont les impressions que l'on a par rapport aux ambiances que peuvent donner les différents niveaux d'éclairage qui nous sont proposés en fait par la direction d'éclairage public, qui pourront permettre de dire ben voilà, on préfère tel type d'ambiance ou pas, et puis il y a une question aussi de temporalité dans la nuit, ou peut-être que certains types d'ambiance sont bien pour la nuit profonde, d'autres mieux pour le début de soirée, le milieu de soirée, etc. Donc le but, c'est d'avoir un éclairage qui s'adapte à la vie en fait de la cité, à la fois pour la tranquillité des gens du quartier, mais à la fois aussi pour des économies d'énergie, pour la qualité aussi de l'environnement, hein, tout simplement les animaux, les insectes, voilà, les chauves-souris, qu'il peut y avoir s'il y en a. Puis les lieux aussi, selon le type de rue aussi, parce qu'on a quand même des éléments qui sont très disparates dans le Vieux-Lyon. Si on prend par exemple les quais, des petites rues étroites ou parfois même très très étroites, avec ou sans commerce aussi, la présence de commerce ou pas. On a des rues parfois très étroites sans commerce, d'autres avec beaucoup de commerce, en fonction aussi de la saison, hein, tout simplement. Là par exemple, on a un lundi soir, il y a peu de commerce ouvert, on est en début d'hiver, fin d'automne. C'est pas du tout le même ressenti qu'on va avoir par rapport à un mois de juin ou juillet, où d'abord l'éclairage dure beaucoup moins longtemps dans la nuit. En plus, voilà, il y a la temporalité des saisons. Hein. Alors cet effet exprès de faire cette réunion ce soir, parce que justement on est dans une temporalité d'hiver où c'est l'éclairage est le plus long. L'été, c'est peut-être moins important. En tout cas, on passe très vite de la lumière à la nuit profonde, en fait, parce qu'entre 10h et 1h du matin, ça passe vite, ça fait 3h. La nuit, elle commence à 6h du soir. Donc elle peut commencer jusqu'à à partir de 6h. Donc c'est complètement différent comme ambiance et comme vie.
L'éclairage public, c'est un vrai sujet ici pour les habitants du Vieux-Lyon ?
Enfin, c'est un vrai sujet, c'est un des sujets, oui. S'il peut être amélioré, c'est une bonne chose.
Ça va être difficile de faire un éclairage qui plaise à tout le monde et qui plaise aussi aux différents usages.
C'est pas si difficile que ça, mais après, il faut bien le calibrer. C'est justement là le but de cette réunion, c'est de voir le ressenti, d'avoir le ressenti des gens pour justement bien calibrer et plaire, ou essayer de plaire en tout cas au plus grand nombre.
Pour chaque point scruté, il y en a 5. Les marcheurs sont invités à noter leur impression, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui peut encore être amélioré. Enfin, une appréciation sur l'équilibre entre lumière publique et lumière privée. Marie-Yvonne s'investit pleinement dans une association qui milite pour la sécurité des femmes dans l'espace public.
Je pense que les grandes rues, il n'y a aucun problème sur la lumière. Mais c'est surtout dans les petits passages, oui. Moi, je suis arrivée par Saint-Paul, la rue où il y a l'horloger de Saint-Paul. Elle est très très sombre. C'est pas moi, je suis pas heureuse, mais c'est pas sécurisant en soi de passer dans un lieu comme ça.
Il faut forcément plus de lumière ou il faut organiser la lumière autrement?
L'organiser autrement. Moi, je suis pas pour le gaspillage de la lumière. Il y a certainement des façons de faire qui ne gêneront pas les gens qui vivent, parce que ceux qui ont une lampe en face de leur fenêtre, pas très agréable non plus. Hein. Je ne suis pas une spécialiste de l'éclairage, mais je me dis qu'il doit y avoir, puisqu'il y a une réflexion, des façons de faire à moins gêner les habitants, c'est important, et faire en sorte qu'on puisse se promener, enfin se sentir en sécurité.
L'idée est de faire varier l'éclairage au fil de la nuit. Cette proposition a été déposée au budget participatif de la ville de Lyon en 2022, avec en ligne de mire des économies d'énergie, plus de tranquillité pour les riverains et un paysage nocturne encore plus séduisant. Nous avons rencontré Thierry Marsic, directeur de l'éclairage urbain de la ville de Lyon.
Ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement d'aller à la rencontre de personnes qui habitent le lieu, qui visitent le lieu aussi. Donc on a souhaité effectivement avoir un panel de personnes qui représentent la diversité des manières de vivre un quartier. Derrière ça, donc, au travers de différentes ambiances, donc, on va recueillir le ressenti de chacun pour voir finalement quel est le meilleur éclairage et comment on peut réadapter telle ou telle ambiance lumineuse en fonction de tel ou tel lieu.
Vous avez parlé de ressenti, alors effectivement c'est assez subjectif le ressenti finalement.
Complètement, mais c'est bien pour ça qu'en fait on souhaite avoir non pas l'avis d'une personne, mais l'avis effectivement de plusieurs personnes. C'est ça qui va être intéressant quand on va dépouiller les résultats de ce travail, c'est de voir effectivement s'il y a un avis relativement homogène, s'il y a des avis tranchés. C'est là où en fait on va rentrer, je pense, aussi dans une forme de débat sur ce que doivent être les ambiances lumineuses dans un territoire.
Vous avez prononcé le mot ambiance, c'est-à-dire que c'est pas une question de quantité d'éclairage?
Bien évidemment qu'il y a une question de quantité d'éclairage, mais c'est pas ça qui constitue uniquement l'ambiance en fait d'un lieu. Quand on regarde la lumière, elle peut être très intense à un endroit et moins intense à un autre. Donc c'est ça aussi qu'on cherche à comprendre sur un même lieu, s'il y a vraiment des écarts, et notamment par la construction entre lumière publique et lumière privée. Donc comprendre tous ces éléments-là pour se dire qu'est-ce qu'on doit réajuster, qu'est-ce qu'on doit finalement retravailler, y compris avec les commerçants si besoin était.
Quelle est la marge de manœuvre dans un quartier historique où tout est bien normé, y compris le lampadaire?
Il y a toujours une marge de manœuvre, notamment donc ce que l'on a fait là, c'est, alors on s'est imposé quand même cet exercice de garder les lanternes parce qu'elles ont ce côté historique. Ce que l'on a fait simplement, c'est de changer la nature de la source à l'intérieur, donc on est passé en LED. C'était un petit travail d'adaptation avec des industriels, et la LED en fait derrière nous permet de piloter les niveaux d'éclairement, c'est-à-dire que tous ces éclairages sont raccordés à notre télégestion et on est capable effectivement d'ajuster les niveaux en fonction des temps de la nuit, en fonction des jours de la semaine. Enfin, on peut faire plein de choses.
Justement, pour tenir compte aussi de l'éclairage, par exemple, d'un restaurant qui complète cet éclairage, finalement.
Pourquoi pas, même si c'est très compliqué, parce que quand on regarde bien l'activité de tel ou tel commerce, elle varie suivant les saisons, suivant les jours de la semaine. Donc, c'est très compliqué, en fait, d'aller dans cet exercice-là. Donc, on essaie de trouver le meilleur compromis à chaque fois.
Qu'est-ce qu'on appelle l'éclairage adaptatif, hein, c'est ça le terme?
Oui, l'éclairage adaptatif. objectif, en fait, c'est cette capacité que l'on n'avait pas auparavant d'ajuster les niveaux d'éclairement en fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, des temps de la nuit, des temps de la semaine. Donc, on est capable, en fait, de donner un niveau d'éclairement, chose qu'on ne pouvait pas faire avec des lampes plus traditionnelles.
Certains préconisent d'éteindre la nuit, en pleine nuit, hein, sur le créneau, par exemple, 2h, 6h du matin. Est-ce que c'est une chose qui pourrait se faire ici, dans le Lyon?
Je ne pense pas, parce qu'il y a toujours de l'activité en ville. En fait, il faut se poser à chaque fois la question, quelle est la valeur de la lumière sur un territoire et qu'est-ce qu'elle apporte et en quoi elle contribue effectivement à l'ambiance et à quelque part une forme de sécurisation aussi hein, d'un territoire. Il faut aussi savoir se poser la question de là où on a peut-être moins besoin de lumière. Voilà, donc c'est vraiment tout cet équilibre-là. Éteindre, c'est possible dans certains lieux, ça ne l'est pas nécessairement partout. Une ville-centre comme la ville de Lyon est une ville hyperactive la nuit. Alors peut-être que par la lumière, justement, on peut aussi quelque part réadapter justement ces rythmes de la ville.
Est-ce qu'on peut envisager un éclairage qui se mette en route, par exemple, quand les piétons passent? Ça existe le long du parc de la Tête d'Or pour les vélos?
Oui, ça existe. Tout est affaire aussi d'équilibre économique. C'est-à-dire que c'est très bien effectivement d'investir sur de l'éclairage adaptatif. Par contre, il faut à chaque fois se poser la question du coût des équipements que l'on va mettre en regard de ces économies. Donc là, on a justement expérimenté depuis très longtemps ce type d'éclairage. On a fait de l'éclairage adaptatif pour du piéton et notamment par détection de présence. Sauf que si c'est installé un capteur à chaque point lumineux, ça commence à coûter très cher. Et finalement, l'investissement que l'on fait n'est pas rentable. Là aujourd'hui, on sait que sur un éclairage comme celui qu'on a installé sur le Vieux-Lyon, grosso modo, en l'espace d'une dizaine d'années, un petit peu moins maintenant, on est capable de rentabiliser l'investissement. Sur de l'éclairage adaptatif par détection de présence, c'est plutôt en l'espace de 2-3 ans qu'on amortit le surcoût d'investissement. Donc vous voyez, c'est aussi ce calcul-là que l'on fait à chaque fois.
Un premier scénario a été proposé pour servir de base aux échanges. Dès le début de la soirée, l'éclairage est réduit de 20% par rapport au niveau actuel. Et après la fermeture des bars et restaurants, on atteindrait 50% de luminosité en moins. Des tests effectués dans la rue Saint-Jean, place de la Baleine et rue des Trois-Maries. Dernière contrainte, ces baisses d'éclairage doivent permettre à la vidéosurveillance de fonctionner. Enfin, la ville de Lyon va dévoiler ce mardi le programme 2024 de la Fête des Lumières, édition des 25 ans de l'événement. Des œuvres qui ont marqué son histoire doivent être réinstallées. On devrait en connaître la liste donc dès aujourd'hui. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Excellente journée.